Vous écoutez Radio Show Football, la Bande Baggio, l'émission 100% foot.
Les Brésiliens sont en blanc, Amédi Pelé. C'est un but fabuleux.
On retraite, c'est bien fait.
Allez mon petit bonhomme. Oui.
It comes for Cantona! I don't believe it!
La frappe de Neymar!
Quel but!
Le face à face! Ouais! Voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute!
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille!
Salut à tous, salut les amis, bienvenue pour le podcast de la Bande à Baggio. On se retrouve cette semaine pour parler de ce week-end footballistique avec la sixième journée de championnat de première division de Ligue 1. Il y a eu l'Olympico, comme le dit si bien Canal+. On va commencer par le Paris Saint-Germain, victoire 3-1. Bon, on a encore vu, pour ma part, j'ai encore vu un Neymar... en dessous de ce qu'il peut montrer. Voilà, il y a eu l'image à la fin où il donne son maillot à un gamin, mais bon, là ça va devenir si ça fait comme ça à chaque rencontre, on va s'en lasser peut-être un petit peu, mais bon, bah tiens Thibaut, t'en as pensé quoi de ce Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il t'a rassuré après le match de Liverpool, ou s'il y a encore beaucoup de travail?
Il y a encore beaucoup de travail, parce que encore une fois, ils ont joué qu'une mi-temps, on a été ballottés pendant une demi-heure au Rennes. D'amis en difficulté, et après que le but de Di Maria avant la mi-temps a donné un coup moral au Rennais, puis après Paris a supporté les Stoccades en faisant le meilleur second mi-temps avec le repositionnement de Neymar en numéro 10, où je pense que c'est sa meilleure place.
Mmh. Ouais, mais bon, il a pas non plus été formidable, Neymar, quoi. On l'a presque pas vu.
Après il a fait une mi-temps sur deux, en fait. Après moi j'ai bien aimé, la performance de Thomas Meunier qui lui montre en date avec ses déclarations. Je trouve que sur le terrain, c'est un des rares qui se bouge plus par rapport aux autres. Et puis, malgré qu'il est à Liverpool, il s'est fait bouffer défensivement, mais je trouve voilà une équipe PSG encore insuffisante. Et puis, je trouve que ça serait bien qu'il fasse une mi-temps pleine, parce que je suis pas sûr, même contre Lyon en championnat, voire même Marseille au Vélodrome, où si on joue qu'une mi-temps, on risque de pas souvent revenir. Mmh. Pour l'instant, ça passe, mais c'est pas suffisant.
Ouais, et toi, Gabi, alors, t'en as pensé quoi de ce pari?
Un match moyennasse, quoi. Encore, ouais. Comme dit Thibaut, malheureusement, c'est vrai que si tu rencontres Lyon aujourd'hui, t'es pas sûr de gagner, hein, parce que l'équipe, elle joue à deux vitesses. C'est-à-dire qu'encore une fois, elle met une mi-temps à rentrer dans le match. En Ligue 1, ça passe. Et quand tu joues en Champions League comme ça, malheureusement, tu te prends des buts comme à Liverpool. Ouais, oui. Rabiot, qui est jamais rentré dans le match, et qui met un but contre son camp parce qu'il est inattentif sur le corner.
Il se la prend sur l'épaule. Un carton en seconde période aussi.
Voilà, il y a ça. C'est pas une grosse équipe de Paris. De toute manière, il y a tellement de faiblesses au milieu de terrain et sur les côtés qu'on risque pas d'aller très loin, ni en Champions League, ni après les huitièmes de finale. Moi, je vois pas cette équipe capable de renverser des gros, comme Lyon, peut-être assez facilement. J'ai du mal à, je comprends pas trop cette équipe, comment elle aborde les matchs et comment le coach parle à ses joueurs. Il y a des petites circonstances par rapport à la titularisation de Bernat ou d'autres joueurs comme ça qui sont pas du tout prêts physiquement et qui sont alignés quand même sur le terrain. C'est compliqué, voilà. Après, ouais, toi, Nico, je sais pas comment t'as perçu ça.
Moi, je l'ai trouvé décevant de toute façon, parce que, comme vous dites, la première période, ils se sont pris le but dès la 11e minute. En plus, t'es en train de m'envoyer un message en me disant, de toute façon, tu vas voir, Paris va se prendre un but, et puis au même moment, ils se sont pris le but. C'était prévisible de toute façon. Puis après, je sais pas, Rennes, je sais pas de quoi ils ont manqué vraiment, Rennes, parce que. Finalement, ils n'ont pas réussi à maîtriser ce match-là, parce que je pense que si tu mets toutes tes tripes pendant 90 minutes, tu peux remporter ce match-là, tu peux faire l'exploit. Mais là, je sais pas, à 1-0, tu as l'impression qu'après, ils ont un petit peu relâché le match, et puis Paris, c'est là qu'ils ont commencé à timidement se réveiller. Puis après, bah, il suffit de quelques exploits personnels et puis de quelques joueurs en forme quand même, parce que Thomas Meunier, pour moi, c'est un des meilleurs qu'il y a eu dimanche.
On en revient. Vous avez fait l'émission en Ligue des Champions après, mais moi, je n'ai pas compris que Derek Sam n'a pas été titulaire contre Liverpool, parce que quand ça rentre en jeu, même contre Rennes, je trouve qu'il perd pas le ballon, il décale. Il est à l'origine, je crois, encore du premier but, du début de l'égalisation de Di Maria, sur cette belle passe en retrait. Donc, je trouve que voilà, qu'il mériterait plus des titulaires et que certains joueurs, même Neymar, sur certains matchs de gain, demain contre Reims, le mettre sur le banc un petit peu.
Ouais, bon, après, je sais pas ce que ça va apporter de le mettre sur le banc, parce que faudrait quand même qu'on en parlait, mais pourquoi les dirigeants ils essayent pas de remettre un petit peu en question Neymar, parce que c'est bien beau d'avoir payé tout ce pognon là, mais Neymar, ce qu'il apporte sur le terrain en ce moment, c'est rien du tout, quoi. Il est à je sais pas combien enfin, il est en dessous de ses capacités. C'est pas possible. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il s'ennuie au club? Qu'est-ce qu'il veut là? Ça va pas. Hein. C'est pas ce qu'on attend de lui. Quoi. On attend de lui qu'il soit bon en championnat et surtout en Ligue des Champions. Je pense aussi que c'est pour ça qu'ils l'ont pris, quoi.
Mais je pense que ça sent vraiment le début de la fin. À mon avis, il entame sa deuxième année comme si c'était la dernière et il veut pas forcément se blesser, se fatiguer. Il va finir comme ça en roue libre, à mon avis. Et puis, que Paris se fasse éliminer ou pas, je pense qu'il en a un peu rien à faire.
Il n'a rien à foutre.
Ouais, moi, je vois ça comme ça. Écoute,
Moi, je ne suis pas si sûr. J'attends de voir. C'est-à-dire qu'au début de saison, il était à 4 buts sur les 4 premiers matchs.
Mais tu le sens impliqué? Il n'est jamais impliqué sur
aucun
match.
Non, il
n'est
pas impliqué du tout. Moi, je le
trouve pas. Vite fait en second mi-temps contre Rennes, mais c'était Rennes qui était fatigué par sa Ligue Europa.
Pour Neymar, c'est pas du vite fait qu'on attend. C'est du concret tout le temps. C'est du tout le temps.
Moi, j'attends vraiment sa réaction, je veux dire, contre Belgrade. Je pense que Paris au Parc devrait faire la différence.
J'espère pour vous que ça va être comme ça, parce que là, franchement, je trouve vraiment en dessous de ses capacités, quoi. Et t'as une impression qu'il s'en fout, mais complètement, quoi. C'est con, parce que t'as Cavani qui se casse le cul à faire des bons matchs. Il est toujours là. On a des mecs comme ça, mais il faudrait que Paris recrute des mecs comme Cavani, quoi. Avec des mecs qui a envie de jouer tous les matchs, qui se donne à 100%. Tu vois que Cavani il est quand même attaché au PSG, que Neymar, j'ai pas l'impression qu'il est attaché à Paris. Alors certes, ça fait moins longtemps qu'il est là, mais quand même, je sais pas. Mais quand t'es dans un club, quand ça se passe normalement bien, je vois pas ce qui peut se passer mal pour Neymar. En dehors, on est en train de le chouchouter un petit peu partout. Je trouve qu'il y a quand même
un décalage.
C'est un manque de respect envers le club aussi, quoi.
Il y a un décalage
envers les supporters. Ouais.
Ouais, j'irais même plus loin. Il y a un décalage entre la performance et puis l'estime qu'on a de lui. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de gens qui voient encore Neymar comme le grand joueur du Barça qu'il était il y a deux, trois ans. Il est plus que Neymar. C'est fini, ça. C'est terminé. Il a fait une Coupe du Monde minable avec le Brésil. Je veux dire, depuis les Jeux Olympiques 2016, Neymar il est en baisse sur plein de points au niveau de ses performances. Et je crois que ce confort avec le salaire, etc., dans lequel on l'a mis à Paris, c'est pas une bonne chose. Au Brésil, on a dit avec les journalistes qu'on était en train de créer un monstre. Et ben, je pense que voilà, c'est en train de se réaliser complètement là. Et faudra pas le perdre, Neymar. Son prochain club, ça peut faire comme un Ronaldinho où il se perd complètement, qu'il n'ait plus envie de jouer au foot.
Ouais, et puis tu le retrouves après dans des clubs de seconde zone ou alors il va. T'as peut-être le Milan AC ou trucs comme ça qui vont vouloir le prendre. Et puis finalement, il va faire peut-être 2-3 bons matchs. Il va faire quelques bons gestes sur le terrain, mais ce sera tout, quoi. Ce sera pas un mec décisif à la fin, quoi.
Ouais.
C'est quand même dommage.
Il va rater encore une fois le Ballon d'Or cette année, voilà.
Ah bah non, ça peut pas être lui, hein. Ouais. Franchement, avec ce qu'il a montré, il a quand même une image à redorer, hein, parce qu'avec ce qu'il a montré à la Coupe du Monde en se laissant tomber, trucs comme ça, c'est pas avec ça, je pense, que tu peux gagner un Ballon d'Or. Je sais pas, mais bon.
Y a un message intelligent là de Daniel Vess qui est passé dans une interview, qui a dit, voilà, il a commencé par dire, voilà, quand t'as une personne qui se moque de toi, c'est peut-être quelqu'un de jaloux, mais quand t'en as plusieurs, c'est qu'il y a sûrement un problème qui vient de toi. Ouais.
J'espère pour vous qu'il va quand même se remettre en question. Après, il suffira de pas grand-chose pour que les supporters et puis même la presse l'encensent. Hein. Il suffit de faire deux, trois bons matchs contre des grosses équipes et puis après, je pense que la machine elle sera relancée. On n'oubliera peut-être pas forcément les trucs qu'il a fait, mais on se dira ouais, ok, là Paris ils ont bien fait de le prendre, tu vois. Donc il a attendu au tournant de toute façon.
Lyon va être le premier gros test pour Paris dans deux semaines, je crois. Donc au Parc des Princes, je pense pas que le public du Parc a pardonnera, je veux dire, que Mimar joue une mi-temps ou une sur deux. Je pense pas que le public le laissera. Le laissera. Et sinon, moi, je voudrais rebondir juste sur Di Maria, qui, je trouve, son attitude de plus en plus bonne. Je le sens impliqué, je veux dire, il est décisif sur les derniers matchs. Je sais pas ce que t'en penses, Gabi, mais, ou même Nico, je veux dire, mais j'ai l'impression que Di Maria, j'ai l'impression que je le trouve plus régulier.
Franchement, il est régulier toutes les 30 minutes, quoi. Donc, non, si tu parles régulier, c'est-à-dire au bout de 30 minutes, il se met à jouer. Parce que, non, le match de Liverpool, moi je l'ai en travers de la gorge, moi. Ça passe pas.
Ça passe pas. Que l'équipe, je veux dire. Voilà.
Non, mais c'est un joueur confirmé. Di Maria, tout ça, Draxler, Neymar. Tous ces mecs-là, ils doivent porter l'équipe. Faut pas attendre qu'un Bernat ou un Kimpembe prennent le ballon et disent les gars, on monte. C'est pas à eux de faire ça.
C'est pas normal.
C'est pas normal. Moi, franchement, je l'ai en travers de la gorge, Liverpool. Et le 3-2, c'est immérité. Il devrait avoir 3-0 à la fin du match. Tu vois. Mais enfin, moi, je disais avec Nico, ironiquement, j'espère que ce soir, ils vont perdre. Je sais plus quel match de championnat on parlait, là.
Bah, c'était celui-là.
C'était Rennes, ouais.
C'était celui-là.
Je disais, j'espère qu'ils vont perdre parce que ça va leur mettre un peu les idées en place. Et là, bon, ils gagnent, mais ils gagnent sur 45 minutes encore. Donc pour la Ligue 1, ça suffit, mais c'est triste quand même, c'est triste. Hein.
Tout
l'argent que tu mets pour ça, quoi.
Mais c'est vrai qu'on attend quand même mieux, malgré qu'il y ait les 18 points, hein, que Paris est invaincu, on attend quand même beaucoup mieux de cette équipe, c'est qui est plus de, je pense, plus de spectacle sur le terrain, je sais pas, un peu plus d'entrain, plus d'implication.
90 minutes, pour l'instant, complète, toujours
quoi.
Une mi-temps sur deux.
Déjà, réponse dès ce soir, dès demain, face à Reims. On passe à un autre match. Je voulais parler de quel match avant qu'on parle de l'Olympico. Vous avez un
Lille,
match
en... J'aurais bien parlé de Lille.
Je t'en prie. Donc Lille qui a battu Nantes. Nantes qui est désespérant cette année. Hein. Nantes qui était désespérant l'année dernière avec tous les points perdus en seconde partie de saison. Là, c'est même pire. Franchement, Nantes a un fond de jeu qui est inexistant. D'ailleurs, sur Facebook, je suis pas mal d'anciens joueurs nantais, hein, dont Nicolas Wedek. Il y a plein d'autres. Tout le monde est unanime. Ils disent que vraiment, la Nantes, c'est pas du Nantes qu'ils ont connu. C'est un Nantes qui est complètement hors circuit, quoi. En fait, finalement, quoi. Et le LOSC, contrairement à ce qu'on avait pu voir l'année dernière, le LOSC qui petit à petit monte, hein, j'en avais déjà parlé j'avais donné mon coup de cœur aux Lillois, et c'est toujours un plaisir de regarder un match de Lille, quoi. Franchement, ils jouent bien, c'est plaisant à voir cette équipe de Lille. Et t'en as pensé quoi, alors, Thibaut, de ce LOSC là? Il est plaisant cette année.
Très plaisant, une équipe parfaitement équilibrée, puis on peut. Et je pense que le recrutement de José Fonté a été une excellente idée parce qu'il apporte la scénarité derrière. Mac Maignan, gardien de but qu'on a vu au PSG, qu'on n'a pas eu trop sa chance, je trouve, de mieux en mieux plus rassurant. Et puis c'est une équipe qui est assez complète. Il y a une triplette devant Pépé, Iconé, puis Bamba qui est intéressante. Un milieu de terrain avec Thiago Mendes. Et puis franchement, cette année, je pense, je les vois pas faire une saison comme l'an dernier. Ça fait plaisir de voir Lille à ce niveau.
Ouais, c'est sûr. Gabi, toi, t'en penses quoi de cette équipe du LOSC? Tu penses que c'est une équipe qui peut être européen en fin de saison, ou est-ce que c'est une équipe qui risque de se relâcher en seconde partie de saison?
Je pense que pour l'Europe, j'y compte pas trop, voire pas du tout, parce qu'il y a plus fort que devant. Rien que deux, trois équipes, ça suffit pour les dépasser. Après, si c'est pour jouer l'Europa League, comme Rennes fait, ou comme Bordeaux fait.
Ouais, ils ont gagné Rennes encore pour le moment.
C'est possible, mais après, c'est pour moi, c'est pas forcément une victoire de jouer en Europa League quand tu termines cinquième ou sixième du classement. Je pense que Lille. Ils engrangent des points contre des petits là, ou des équipes qui sont en difficulté tactique actuellement, comme Nantes qui joue avec Cardozo, le coach, qui est pas du tout capable de mettre en place quelque chose de cohérent. Une fois que t'as, comme disait Habib Bey, une fois que t'as passé la ligne médiane, il se passe plus rien. Il y a une transversale qui va en touche ou des choses comme ça. ça manque de technicité, le FC Nantes, et je pense que déjà Valdemar Kita qui a tapé un gros coup de gueule dans le CFC en demandant des explications à son coach après le match, va sûrement le mettre à la trappe, ouais, bientôt à mon avis.
Ce sera le deuxième coach qui partira cette saison.
Il a pas une tête de gagnant en plus. Le coach, il a l'air fébrile.
Non, mais quand tu regardes son parcours, il a été beaucoup adjoint un petit peu partout en Europe. Et puis c'est juste parce que l'année dernière, il avait fait une bonne saison avec Rio Ave, hein, ça doit se dire comme ça, au Portugal, que Nantes, ils ont décidé de le prendre. Je suis désolé. Quand tu passes de Ranieri, quand même, qui a entraîné les meilleurs clubs européens, qui a une valeur sûre, et que tu passes à un mec qui peut-être a des bonnes idées mais qui n'a pas assez d'expérience, ça la fout mal, quoi. C'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver mieux, ils n'ont pas réussi à faire mieux, hein. Ça fait un peu comme Nice avec Lucien Favre, quoi. Ouais. C'est difficile de trouver mieux après, hein, de trouver l'équivalent, quoi.
Ah ouais. Non mais là, je pense qu'ils ont voulu faire des restrictions budgétaires au niveau du coaching, parce que finalement Ranieri, il a coûté très cher au club et il pouvait pas forcément le garder à mon avis. Donc là, tu as Cardozo, quoi, c'est le coach débutant qui était ancien adjoint, qui a jamais entraîné en Ligue 1 ni dans un top championnat du top 5.
C'est ça.
À mon avis, non, ça va pas marcher, hein. Ça me fait penser, tu sais, un peu à Hervé Renard quand il était arrivé. Il avait plein d'envie, mais trop de lacunes tactiques par rapport à la Ligue 1. Je pense que ça va pas durer longtemps, cette histoire entre le coach et le FC Nantes.
Donc, à mon avis, ça va être un entraîneur qui va
18e,
sûrement.
18e FC Nantes. Hein,
18e. Ouais, 18e, hein, c'est quand même. À ce train-là, de toute façon, pour rattraper après le reste des équipes. Alors, je sais, on n'arrête pas d'en parler, qu'il suffit des fois de pas grand-chose pour remonter au milieu du classement, mais avec un jeu proposé comme ça, ça va être compliqué quand même. Hein.
Ouais.
Donc voilà, donc victoire du LOSC qui est deuxième du championnat. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le LOSC deuxième du championnat. Je crois que ça fait depuis peut-être l'année d'après leur titre de champion. Et puis on va passer à l'Olympico, hein, Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille. Donc c'était un match joué dimanche à 21h sous l'antenne de Canal+, et les Lyonnais qui se sont, je veux pas dire de bêtises, hein, ils sont logiquement imposés 4-2. Marseille inefficace défensivement, ça a été une catastrophe. Et encore, comme tu disais, Gabi hors antenne, heureusement qu'il n'y avait pas Rami, parce que je pense que là, ça aurait été pire. Là, Marseille, c'était catastrophique. Déjà, on a eu un petit avant-goût avec ce match dégueulasse face à la Eintracht Francfort en Europa League. Pourtant, ça avait bien débuté. Puis après, Marseille, ils ont complètement arrêté de jouer. Et puis, ils ont pareil, logiquement perdu. Il y a eu, je sais pas, cette impression qu'il n'y avait plus d'envie. Et puis là contre Lyon, la défense mais catastrophique, Amavi qui fait n'importe quoi, il y avait des trous dans la défense, mais c'était t'as l'impression que Lyon jouait en Coupe de France contre une équipe de Régional 1, tu vois, t'es une équipe pas professionnelle, quoi. Mais là c'est du grand n'importe quoi. En attaque, Mitroglou, il a pas été bon, Germain qui l'a remplacé, il a pas été bon. Heureusement Thauvin, c'est Thauvin, c'est toujours le mec qui va marquer un but à chaque match, quoi, presque.
Après, heureusement. C'est un cadeau des Lyonnais.
Ouais, mais bon, faut quand même le mettre, le but, quoi. C'est ça le truc, hein.
Après, c'est sûr. Mais et ouais, puis, c'est celui qui est vraiment au niveau.
Et puis voilà, quoi. NG qui marque après, mais bon, c'est trop tard. Après, voilà, le penalty, il est valable, hein. Il y a eu la VAR. Et ben, voilà, un penalty, il y a penalty. Il y a rien à dire sur ce truc-là. J'ai pas trouvé non plus les Lyonnais vraiment impressionnants, parce que en fait à chaque fois qu'ils avaient le ballon, comme tu disais tout à l'heure Thibaut, t'avais l'impression qu'ils pouvaient mettre le but. Mais mince, moi j'en ai marre à chaque fois. Marseille, et c'est toujours pareil, quoi. On fait les fanfarons contre les petites équipes, on arrive à battre Monaco, mais bon, c'est un Monaco qui est pas du tout en forme. Et puis voilà, dès que tu rencontres un gros qui est en forme, et t'y arrives pas. Ça commence, moi ça m'énerve, quoi. Je me dis, ce que je me suis dit avec un pote. On va faire le gros footix de base, et dès que ça marche pas, on va plus regarder les matchs. Ça sert à quoi de regarder contre Paris s'ils font exactement la même prestation? Ça sert strictement à rien, tu vas perdre. Comment tu peux espérer gagner avec une mentalité pareille? C'est n'importe quoi. Et malheureusement, j'ai pas l'impression que Rudy Garcia puisse faire grand chose. Il a ses limites aussi, on l'a vu aussi l'année dernière, hein, malgré la finale en Europa League. On a vu qu'il y avait des limites à sa tactique. Et là, j'espère que ça va pas retomber comme dans une crise comme chaque année, quoi. Parce que finalement, on est abonné à ça et je crois que j'ai l'impression qu'on va revivre encore une 2-3 journées de merde. Et puis après, peut-être que par miracle, ça va remonter un petit peu. Et puis voilà. Mais c'est moi, ça m'énerve, quoi. Tu peux pas essayer de t'imposer contre un gros. C'est impossible.
Mais ce qui est surtout frappant, moi, ce que je regarde, c'est l'absence d'agressivité défensive.
Voilà, c'est ça.
D'habitude, autant que l'année dernière, tu te souviens de Marseille-Lyon, où Marseille avait mis de l'impact. Il y a eu 3-2, ouais. Mais je pense que les Marseillais avaient fait un bon match, j'ai trouvé ce jour-là.
Ils avaient été un peu meilleurs.
Mais là, quand je vois les buts qui freinent, mais c'est hallucinant. Aouar se promène tranquillement dans la défense.
Ah, ben le premier but, tranquille. Tranquille, le premier but.
Je te laisse s'ouvre la porte, vas-y, entre. Bertrand Traoré sur les deux buts, ces deux frappes du gauche puis côté droit, je pense que tout le monde la voit arriver cette action. Même toi, même Gabi, on vous regardait l'action. Vous savez que Bertrand allait faire ça et puis vous laissez rentrer tranquillement. Je veux dire, ouais, même... la porte est ouverte. Hein.
Et puis même que j'ai beaucoup de respect pour Johan Pelé, je suis désolé, mais il y a quand même des buts. Je pense que ça aurait été Mandanda, il les aurait sûrement détournés, au moins détournés, pas forcément arrêtés, mais au moins détournés. Moi, j'ai un problème avec Johan Pelé, c'est que j'ai l'impression qu'il a un temps de retard à chaque fois sur les frappes, quoi. Oui. Il a pas le réflexe comme d'autres gardiens. Lui, c'est toujours. Alors des fois, ça marche, ça peut marcher, mais lui, j'ai l'impression qu'il y a toujours un train de retard dès qu'un joueur frappe. Quoi. Il est toujours en retard. Et là, tu regardes sur les buts lyonnais, il est en retard. Sur au moins les deux buts là, les deux buts de Traoré, il est en retard sur les frappes. Quoi.
Mais je pense qu'il y a une raison par rapport à ce que tu dis, qu'il soit en retard sur les frappes. C'est-à-dire que je pense que sa défense le couvre mal. Il l'empêche justement de voir le ballon. Et il n'attaque pas le possesseur du ballon qui va tirer les défenseurs. Ils sont trop statiques et trop ils attendent de voir ce que va faire l'attaquant. Et malheureusement, au niveau, si t'es pas agressif sur le ballon comme vous dites, et ben à un moment donné, le gardien ne sait pas quand le ballon part, ne sait pas exactement ce que veut faire le défenseur, donc il attend de voir ce que va faire Luis Gustavo ou Caleta-Sar en défense. C'est deux défenseurs qui sont, il y en a un et sincèrement il a pas le niveau pour jouer ni en Ligue 1 ni bref. Et Gustavo, c'est pas son poste de prédilection, donc
Il fait ce qu'il peut, avec ce qu'il a. Hein. Des fois, il arrive à faire des bons trucs, mais il peut pas être performant à 100% à chaque fois. Et j'ai l'impression qu'on le trouve encore de plus en plus en défense. Et j'ai surtout l'impression que Garcia veut le mettre en défense à chaque match, quoi.
Ouais. Mais Thomas, c'est pas son rôle. S'il trouve pas sa défense, c'est-à-dire qu'il y a un gros problème au niveau
défense. C'est un gros souci, mais ça, c'est l'année dernière, ça.
À l'arrière central, je suis désolé, il y a un problème pour pouvoir mettre un milieu de terrain défensif comme lui, Gustavo, qui fait, certes, lui, il fait son travail parce qu'il est au niveau de l'impact, mais là, il peut pas rattraper les conneries de ses défenseurs.
À ma vie,
il se fait bouffer sur le côté, j'ai l'impression que les Lyonnais avaient bien compris, parce que tous les buts sont passés du côté d'Amavi, ils ont aussi que le problème.
De toute façon, deux buts sont passés du côté d'Amavi, alors. Comme je te dis, c'est bien beau de faire le fanfaron face à Toulouse, face à Guingamp, parce que, à ma vie, finalement, il a pas été très mauvais, il a pas été mauvais face à Toulouse et Guingamp. Mais bon, c'est contre des équipes qui refusaient de jouer, c'est pas qui refusaient de jouer, mais c'était beaucoup plus faible. Et dès que t'as un impact, dès que t'as en face une équipe qui donne de l'intensité, à ma vie, t'as l'impression qu'il est bloqué. L'année dernière, c'était pareil. Regardez son match en finale de la Coupe d'Europe, il a été mauvais il s'est fait bouffer contre l'Atlético, quoi. Enfin, il y a pas de remise en question non plus là.
Et le problème d'Amavi, c'est qu'il est pas aligné à tous les matchs depuis un moment. Il joue par intermittence et je pense que c'est un mec qui manque d'implication dans son jeu, dans son placement, dans ses phases offensives où il est un peu éparpillé partout, un peu comme Bernat qui a fini avant-centre à la fin du match contre Rennes. Moi j'ai halluciné ça. Le mec il traverse le terrain, il se met à côté de Cavani tranquille, il attend la balle. Mais ce mec, d'où il sort ce mec? C'est pas possible. Alors à l'OM, on a eu des cas aussi avec des joueurs qui avaient pas le niveau. Je sais plus comment ils s'appelaient. C'était à Paris aussi avec les deux Brésiliens là qui étaient venus.
Everton
Souza là, je sais pas quoi. Oui. Mais il y a... tu vois ce que je veux dire, à Prouzès qui était à l'OM à un moment donné, je pense pas qu'il faisait des trucs comme ça non plus, il était là pour
Non, mais en fait à Prouzès, c'était un mec de CFA2, oui, ils voilà. l'ont pris parce qu'il y avait personne,
il y avait
pour
des
deux
blessés.
Trois matchs, ils l'ont foutu en CFA2 après parce que voilà, c'était peut-être le meilleur de tous les joueurs de CFA2, ouais. Mais après niveau Ligue 1, il avait pas le niveau du tout, hein, de toute façon.
Niveau tactique, c'est pas possible. Ouais. Mais globalement, l'OM, c'est une équipe qui manque de patience, de sérénité. Ils font une très bonne première période en égalisant, etc. Mmh. Et je sais pas, il y a un moment donné, ça se désagrège complètement au milieu de terrain.
Ça fait comme contre l'Eintracht, quoi. Ouais. Ils marquent et puis après ils se relâchent complètement. Et ça a toujours été comme ça. À chaque fois que Marseille marque, souvent, ils sont rattrapés 2 minutes, 3 minutes après. C'est toujours comme ça. Il y a un relâchement et je comprends pas que depuis, ça fait 2-3 ans que c'est comme ça. Depuis que Rudy Garcia est là, même un petit peu avant, mais bon, c'était autre chose. Mais depuis que Rudy Garcia est là, il y a un relâchement. Je comprends pas pourquoi il ne fait pas en sorte de travailler sur le relâchement comme ça, quoi. Enfin, je comprends ouais. pas. Il y a des choses que je comprends pas avec Rudy Garcia. J'ai du respect pour lui parce que il a fait des choses que peut-être pas d'autres entraîneurs. Enfin, je suis pas sûr que d'autres entraîneurs auraient fait. Au moins d'emmener Marseille en finale l'année dernière en début de saison, on m'aurait dit ça, j'aurais signé tout de suite. Personne ne pensait que Marseille serait allé en finale. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de choses dans sa tactique qui me plaît pas. Et de toute façon, quand tu regardes ce qu'il a fait avec la Roma, au début c'était bien, puis à la fin c'était catastrophique la Roma. Donc
c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Heureusement qu'ils sont pas des champions, Nico. Je veux te dire.
Oh bah non, mais là, de toute façon, ça aurait fait comme la fois où ils avaient tout perdu leur match. Hein. Ça aurait été ridicule.
Ils ont, comment dire, profité des faiblesses physiques en deuxième période parce que l'OM a joué jeudi. Il faut pas oublier. Donc quand tu arrives le dimanche dans un choc face à un concurrent direct pour la deuxième place, ouais. Un match qui va être très difficile, voire plus difficile que le match d'Europa League, 3 jours de repos, c'est pas assez, même si tu as joué à domicile. Quand tu vois que l'OM n'a pas de remplaçant, c'est
ah non, mais là c'est catastrophique. Quand tu regardes le banc de touche, c'est catastrophique, quoi. Il y a rien, quoi. Mais de toute façon, je te l'avais dit en début de saison, ce sera pas la même saison que l'année dernière. Je sais pas s'ils arrivent à terminer 5e cette saison. Je peux pas dire que ce sera du miracle, mais ce sera déjà une bonne saison. Qu'est-ce que tu veux faire avec un banc de touche comme ça? Pas grand-chose, quoi.
Mais qui est-ce qui s'occupe chez vous là du recrutement défensif? Parce que
du recrutement, c'est Zubizarreta et puis c'est Zubizarreta déjà.
Ouais, mais ils ont été vous chercher Ubokan là, et là ils vous prennent Kalaitasar là. Ils vont aller prendre qui après? Baresi, tu vois? Non, mais ils prennent mecs qui sont complètement claqués.
Baresi surtout qui vont prendre. Non, mais enfin, je sais pas, mais non, mais c'est, je sais pas. T'as beau avoir des mecs qui sont, je sais pas s'il est bon en fait. Zubizarreta, c'est un bon joueur de foot, c'est un bon gardien. Mais finalement, après, c'est son nom qui fait que tu dis ah, c'est un bon recrutement. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a ramené de vraiment énorme à part peut-être Gustavo? Le reste, c'est pas terrible, quoi. Alors, il a fait revenir tous les anciens joueurs d'accord, mais ça compte pas, ça.
Ouais.
Une bonne recrue, moi, tout ce que j'aimerais, c'est une bonne recrue, quelqu'un qui s'impose dans l'équipe et qui soit vraiment le meneur d'homme, quoi.
Je pense que Strootman, ça tombe bien, mais ça peut être le leader de milieu de terrain, parce que je trouve que c'est un bon joueur.
Strootman, en plus, c'est pas du tout lui qui a choisi ce joueur-là. D'ailleurs, il avait dit que, On aurait pu mieux faire avec l'argent qu'il y a eu pour Strootman pour recruter plusieurs personnes de mieux. Alors bon, je sais pas.
Ah, c'est bizarre quand même.
C'est bizarre quand même.
Parce que quand t'arrives pas à prendre un défenseur central, sachant que t'en as pas sur le banc de touche et que t'es obligé de mettre un milieu de terrain pour un grand club comme l'OM, c'est quand même désespérant.
L'Europa League, ça fait pas rêver, quoi, de toute façon. Hein.
Ah, aussi,
mais après, il y a des défenseurs en Ligue 1 qui peuvent faire l'affaire, qui sont bons.
Oui.
Et qui pourrait apporter à Marseille. Il n'y a pas besoin d'aller chercher en Angleterre, en Allemagne, enfin en Europe, quoi.
Oui, t'as pas besoin de mettre 20 millions.
Voilà. On parlait de Lille. Ouais, on va aller le chercher. C'est un mec qui est plus fort que les défenseurs centraux de Réunion Marseille.
Marseille, dans l'histoire de Marseille, des fois, ils ont réussi à prendre des joueurs qui étaient en Ligue 1, qu'on ne misait pas forcément sur eux. Je me souviens en attaque de Pagis et de Maolida. Cette année-là, là, ça devait être la saison 2006-2007. Même moi, le premier, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce recrutement? Et finalement, c'est deux mecs qui ont été qui sont adorés par les supporters parce qu'ils avaient fait une saison et demie complète, quoi. Ils avaient marqué, c'était vraiment une attaque qui était parfaite. Pareil, Habib Bey, à l'époque, ils sont allés le chercher à Strasbourg. C'était un bon défenseur, mais bon, c'était pas un top défenseur. Ils l'ont fait venir à Marseille. Il a fait quand même quelques saisons qui étaient très bonnes. Enfin voilà, à Marseille, ils savent recruter, en fait. Mais là, j'ai l'impression qu'on veut recruter du lourd parce que voilà, on a le Champion Project en ligne de mire. Mais on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Le premier test, c'était Lyon. Ils l'ont pas du tout réussi, donc tu te dis qu'après, ben, ça peut, ils peuvent perdre contre n'importe qui maintenant, hein. Ouais. C'est ça le souci. Regarde, là, bon, ils vont recevoir Strasbourg, demain. J'espère qu'ils vont remporter ce match-là, mais après, ils vont jouer à Lille. C'est pas dit qu'à Lille, ils gagnent, hein, de toute façon, hein, surtout avec la forme de Lille en ce moment, hein.
Ah, mais les matchs sont loin encore. Après, t'as encore de l'Europa League, etc. Il y a des choses sûrement de la Coupe. Peut-être, je sais pas s'il y a de la Coupe de France ou Coupe de la Ligue, j'en sais rien.
Ouais, il y aura de la Coupe de la Ligue au mois de novembre, et je crois qu'après, c'est au mois de décembre. Et la Coupe de France, c'est à partir de janvier. Donc, bon, ça encore jusque-là, ça va. Mais,
non, mais je vous dis, de toute façon, il faut attendre bien novembre pour voir comment les petites équipes vont se comporter. Parce qu'ils ont pas de banc de touche, faut pas oublier ça, hein. Lille, ils sont en pleine bourre, mais avec la même équipe depuis un moment, donc attendez un peu. Et puis, combien de fois on a vu des Guingamp, des Toulouse en tête du classement comme ça, jusqu'à fin octobre, après il n'y a plus personne.
Après, donc, dégringoler, ouais, c'est sûr.
Faut être patient.
Donc voilà, je suis encore une fois déçu, et je me dis que bah, la prochaine fois que Marseille va tomber contre un gros, bah, à quoi ça sert d'y regarder si c'est pour faire du mal devant la télé. c'est con à dire, mais voilà, quoi, t'as plus aucun plaisir, quoi.
C'est pas comme
un gros pour Monaco, c'est pour Marseille, c'est Paris bientôt, qui va arriver le 28, je crois, dans un mois, mais ça va arriver très très vite pour Marseille.
Ah, ça sera très vite là. Et c'est où? C'est à Marseille d'abord, hein, de toute façon.
C'est à Marseille.
Ouais. Mmh. Ouais. Donc voilà. Et pour Paris, le premier gros choc, hein, ce sera dans deux journées, ce sera le 6 octobre, hein, le 7 pardon, contre Lyon. Donc bah, vivement cette soirée là parce que ça va donner un beau match, je pense.
Ce sera un match niveau du Champions League.
Donc Guingamp qui a perdu 3-1 face à Bordeaux. Monaco avait fait un partout face à Nîmes, hein. Monaco qui n'y arrive toujours pas, hein. Monaco qui est 16e. Ça va être compliqué pour Monaco aussi. Angers-Toulouse 0-0, Montpellier qui bat Nice 1-0, Stade de Reims contre Dijon 0-0, Saint-Étienne qui se remet à gagner 2-1 face à Caen.
Merci Samba.
Mais c'est ce que j'allais dire. Oh, le deuxième but. Hein,
mais tant qu'ils l'enlèveront pas, ils prendront des points.
Hein. Ils prendront les doigts à la fin, hein, de toute façon. Ouais. Quand tu regardes le deuxième but, c'est vraiment. Oh, ce but-là, franchement, c'était cafouillage qu'il y avait dans le.
On se retrouve dans une cour de récré sur le deuxième but.
C'est ça, c'est exactement ça.
On se jette tous pour pouvoir mettre le pied.
Exactement ça. Et puis Strasbourg qui bat Amiens 3-1. Voilà, donc avant de se quitter, tu voulais parler de Manchester United, Thibaut, hein, qui est un peu à la traîne en ce moment. Alors bien sûr, ça marche un petit peu contre les équipes un peu moins fortes, hein. Notamment, ils avaient gagné 3-0 au Young Boys de Berne en Ligue des Champions, mais en championnat, ça traîne un petit peu. Et puis on a Pogba aussi qui a donné un petit peu une interview en disant qu'il aimait pas trop ce que Mourinho proposait à Manchester. Donc à mon avis, le torchon va brûler entre les deux.
Non, parce que déjà, ils ont pas juste su battre Wolverhampton, avec tout le respect que j'ai pour Wolverhampton. Et puis quand tu vois sur les gros matchs, premier gros test cette saison contre à Old Trafford contre Tottenham, 0-3. Il y a un problème maintenant. Hein. On a l'impression que Manchester United, c'est un peu comme le PSG, je veux dire. C'est le fort avec les faibles et le faible avec les forts. Ouais. J'ai l'impression que je suis en parler. Et puis, putain, en parenthèse, c'est vrai que voir Ferguson, cette ovation de plus de 8000 pour Old Trafford, ça m'a fait quelque chose, parce que moi qui suis Manchester depuis des années, et quand je pense que j'ai la peine pour ce qui voit de Manchester maintenant, pour Ferguson, parce que quand tu vois toutes les équipes Old Trafford qui n'ont plus de peur, de venir, et puis qui disent, tiens, ouais, maintenant on va essayer de jouer pour gagner là-bas, alors que, à l'époque de Ferguson, les équipes qui allaient à Manchester, avaient cette crainte, ils avaient peur.
Il faudrait un mec qui ait connu Manchester dans les bons moments et puis qui puisse justement mettre sa touche personnelle dans ce club-là. Mourinho, de toute façon, moi depuis le début, j'ai dit que c'était une grosse erreur de prendre Mourinho. Mourinho, c'est plus le Mourinho qu'il y avait avant. Mourinho, il est devenu, je peux pas dire qu'il est devenu has-been, mais c'est un mec qui s'engueule avec tout le monde à la fin de sa, à chaque fois qu'il quitte un club, et c'est ce qui va se passer avec Manchester de toute façon, hein. Et puis je pense pas que les supporters le regrettent, hein, parce que depuis qu'il est là, C'est moi, pour moi, je ne regarde même plus un match de Manchester tellement que c'est pas beau, tellement que c'est brouillon comme comme jeu, quoi. Donc j'espère pour Manchester que bah, ils vont prendre la bonne décision et surtout trouver le mec qui réussira à remettre Manchester en haut. Hein. Alors ok, il y a peut-être eu une finale d'Europa League, mais c'était pas terrible, hein, les matchs avec Mourinho.
Sur ce de cette finale, c'est que c'est l'Ajax qui a eu le ballon. Et Manchester qui avait été réaliste.
Hein. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas mis de choses aussi pourries. Hein. D'ailleurs, je rappelle Gabi, on voulait faire un podcast dessus et finalement on l'a jamais fait parce que c'était tellement nul qu'on avait rien à dire dessus. Quoi.
Oh, y a, mon Dieu, cette finale est une des pires de l'histoire de ma vie. Non, mais c'était.
Avec le but de Pogba détourné, truc comme ça, oh, c'était vraiment pas beau. Hein.
Non, mais il y avait eu des finales entre des équipes beaucoup plus moyennes, comme le Royal Antwerp, là, qui avait joué contre l'FC Parme en Coupe des Coupes, il y a très longtemps. Ouais, je veux dire, des équipes moyennes qui jouent contre des gros, ça donnait des bons matchs à une époque. Maintenant, c'est, quand tu sais que t'as un Mourinho dans une des deux équipes, il y aura pas de match. C'est horrible à regarder, malheureusement. Mourinho, il ferme tellement le match, il met toute l'équipe derrière, et même ce but, là, enfin bon, bref. Moi, je peux comprendre que Pogba, il commence à, bah, son talent n'est pas exploité, c'est ça le problème, c'est que lui, tu sais que c'est un joueur qui a un fort ego. Et qui a besoin de montrer ses qualités justement pour atteindre un jour peut-être le Ballon d'Or ou des choses comme ça, même être dans le top 3 du Ballon d'Or, parce qu'actuellement là, jouer avec dans une équipe de Mourinho avec cette tactique,
et, tu peux rien espérer.
Tu peux rien espérer du tout parce que tu n'existes pas. T'es un pion sur une ligne. C'est tout ce que tu es avec Mourinho.
Et heureusement que Pogba est à Manchester cette année. Je le trouve bon parce que je pense qu'il a fait gagner pas mal de matchs, mon Pogba, cette année. Je trouve, il fait un bon début de saison, je sais pas si vous en pensez, je trouve pas mal. Et heureusement qu'il est là.
De toute façon, c'est sa dernière saison, hein.
Non, mais de toute manière, je pense que ça aurait été un autre qui aurait marqué sur d'autres situations. Non, mais je trouve pas qu'il soit exceptionnellement, il est bon, hein. T'as raison, il est bon parce qu'il sort d'une bonne Coupe du Monde. Mais, il est pas exceptionnel dans le jeu de Manchester. Pour moi, son dernier gros match, c'était à Manchester City. Vous vous rappelez l'année dernière?
Oui,
quand ils avaient gagné. Wolverhampton, si Pogba il est décisif, il fait gagner son équipe contre Wolverhampton, hein, parce que sincèrement, Wolverhampton, t'as des joueurs de 35 ans comme Joao Moutinho, etc. Enfin,
ils avaient fait un partout contre Manchester City aussi, Wolverhampton, hein, donc
ouais,
c'est une équipe qui est pas, c'est l'équipe de milieu de tableau, voire du deuxième partie de tableau de la première ligue, hein, Wolverhampton. Hein. C'est pas non plus.
C'est le début de
saison.
Pas
transcendant, hein. Non plus. Voilà, c'est le début de saison, ouais.
Non, c'est hyper décevant, comme tu dis, Thibaut. Hein. Franchement, Manchester, quand t'allais jouer là-bas, t'avais peur de te prendre des valises à chaque fois. Hein. Et là, comme tu dis, bah, l'équipe aimait le bus, et puis tu sais qu'il se passera rien de spécial, finalement. Hein. Parce qu'il n'y a aucune créativité ni d'intelligence,
folie.
pas de folie
surtout.
Ouais.
Parce que quand il y avait Ferguson, le nombre de matchs que Manchester a gagné dans les arrêts de jeu, c'est une équipe qui ne lâche rien jusqu'à la 94e ou même plus. Et là, quand tu vois maintenant, il contente du minimum 1-0, on ferme derrière.
C'est sûr.
Et sauf qu'en Angleterre, maintenant, les équipes anglaises par rapport aux équipes françaises, elles se battent, je veux dire, jusqu'à la dernière minute. Donc, tant que un match en Angleterre n'est jamais fini, sauf
à Arsenal. Voilà. Au bout de 15 minutes, il n'y a plus personne dans le stade.
Voilà, c'est ça.
15 minutes avant la fin.
C'est ça. Bon, vous voulez rajouter quelque chose d'autre?
Par rapport au trophée FIFA qui ont été donné hier, c'est vrai qu'on peut en parler rapidement. Moi, je suis assez d'accord par rapport à la globalité des prix qui ont été décernés. Le prix Puskás, c'est difficile parce que il y en a qui vont favoriser un but important, d'autres la beauté du geste, d'autres le moment, etc. Enfin, il y a plein de choses. Après, je veux dire, au niveau des prix, c'est assez cohérent. Il y a juste, voilà, comme on disait, c'est De Gea, le gardien de but, qui est dans le 11 de rêve, alors que t'as Thibaut Courtois et Lloris, voilà, qui sont là, et ils ont rien. Donc... Donc voilà, quoi, il y a juste ça. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette cérémonie.
Et puis Dani Alves, j'ai pas compris. Personnellement, j'aurais mis Carvajal.
Bah, peut-être qu'il y avait personne d'autre. Faut réfléchir peut-être dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il manquait quelqu'un.
C'est bizarre que Dani Alves, parce qu'il y avait Dani Alves, ça a été blessé. Je trouve qu'en Ligue des Champions, il avait fait une bonne poule avec Paris et contre les Real Madrid. Je l'avais trouvé très, très insuffisant, mais j'ai pas compris Dani Alves. Je suis content pour lui, mais
du coup, c'est compris. Ouais, mais du coup, c'est sur l'année le prix, donc en fait, c'est peut-être c'est sur pas sur ouais. Le début de saison, la fin de saison de l'année dernière, je veux dire.
Ouais, ça va être sur l'année, l'année entière.
Moi,
quoi.
Je pense que c'est sur la saison 17-18, je pense.
Joueur de l'année 2018 par la FIFA, ouais, donc je sais pas.
Ouais, faut voir comment
c'est dommage, parce que sinon, il faudrait qu'il fasse ça en décembre.
Oui, oui, bah c'est, voilà, c'est ça. Ils zappent 4 mois de compétition, pratiquement, donc c'est ridicule, hein, parce que finalement... T'as peut-être des mecs qui ont été meilleurs au Bayern ou même Lucas Hernandez à l'Atlético. Enfin, il y a sûrement meilleur que Dani Alves, hein, ouais, comme vous dites. Hein. Mais milieu de terrain et tout, pour une fois, l'équipe elle se tient. Après, Marcelo en défenseur, j'ai pas trop compris parce que au Real, il a jamais vraiment joué défenseur au Real. Donc en Champions League, tu dois toujours milieu à la limite. Mais écoute, s'il fallait équilibrer le milieu de terrain comme ça, ouais. Mais après voilà que c'est vrai qu'on peut taper un tout petit coup de gueule par rapport à Cristiano et Messi qui sont pas venus. Bon, Messi c'est pour des raisons personnelles soi-disant, mais moi je pense que bon voilà, ils se sont fait exempter du truc parce que ils vont être récompensés sûrement au ballon avec le ballon d'or, donc ils sont boycottés, voilà, j'en sais rien. Mais vous en pensez quoi vous de leur non-présence?
Ça m'étonne pas.
Moi je suis pas tellement surpris.
Ouais, ça montre un peu leur égocentrisme par rapport au monde du foot quoi.
Ouais. Bon, je pense qu'ils pourraient faire l'effort de venir, hein, pour des raisons personnelles, mais qu'est-ce qu'il y a, enfin, je sais pas, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose, une maladie dans sa famille, ou une connerie comme ça,
un goûter
de son fils, quelque part. Non, mais je sais pas, mais, ouais, c'est, je trouve que c'est un manque de respect quand même, parce que malgré, faut qu'ils montrent qu'ils soient bons perdants, quoi, c'est pas parce qu'ils ont pas eu le trophée que, voilà. Ouais. Tu y vas, bah t'as perdu, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Attends, combien ils ont eu de trophées aussi au bout d'un moment, voilà quoi. Enfin, je sais pas.
J'ai pas vu Pogba aussi, vous l'avez vu, non?
Non, je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Il a pas été filmé, je pense pas qu'il
ça,
était
c'est
là.
C'est pareil, hein. Ben, je trouve qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui ont été plébiscités par le Ballon d'Or de France Football qui n'étaient pas présents, comme Griezmann, Pogba, qui n'étaient pas là. J'ai trouvé ça un peu dommage qu'il y ait un peu ce comment dire, cette séparation entre les deux trophées, voilà, et puis des joueurs qui boycottent l'un et pas l'autre.
Après, le truc, c'est qu'ils ont des matchs aujourd'hui aussi. Alors, bon, tu vas me dire, t'avais De Rea qui était là. Il était De Rea, non? Il était pas? Si?
Non, il était pas là.
Ah ouais, parce qu'ils ont des matchs aujourd'hui.
Voir, hein,
ils ont...
Je l'ai cru le voir, De Rea, moi. Ah bon, si, il était là. Hein.
Ils ont des matchs de coupe aujourd'hui, là, en Angleterre, là. C'est la Carabao Cup, là, la coupe de la Ligue, quoi.
Non, De Rea, il était là, il a eu son trophée du 11.
Ah ouais. D'accord. Oh, bon. Et Reynal Pedros, hein, qui a été élu meilleur joueur, meilleur entraîneur d'équipe féminine, bon, voilà.
Je crois que c'est lui qui a fait le discours le plus long, je crois. Parce que à chaque fois, t'avais Anne-Laure Bonnet qui traduisait, et puis, bon, il y a eu au moins 3-4 traductions d'affilée, alors que tous les autres ont fait des discours assez rapides. C'était assez
cool. N'Golo Kanté, c'était marrant son petit discours. Mais,
ouais.
Très symbolique. Et c'était sympa, je pense, que les applaudissements pour lui, parce que je pense que c'était le mec limite le plus timide parmi tout le monde.
Un joueur attachant, c'est un mec attachant, ce mec, en fait, N'Golo Kanté, finalement. Hein. Mm-hmm. Mais je pense que pour qu'il soit attachant tout le temps, il faudrait même pas qu'il revienne jouer en France ou dans un gros club, en fait. Ouais. Comme ça, non, mais ouais, pour que tout le monde l'aime vraiment, que ce soit vraiment le joueur le plus aimé en France. Parce que s'il va à Paris, après, bah, t'as tous les Marseillais, tous les autres qui vont plus forcément l'apprécier comme avant. Et puis, tu vois, faudrait qu'il fasse sa carrière à l'étranger, toute sa carrière, en fait, tout simplement.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Pour que ce soit, tout le monde soit unanime avec lui, quoi. Mmh. Enfin, voilà. Bah, écoutez, les gars, merci d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve, la semaine prochaine. On parlera de la 7e journée, de la 8e journée même de championnat. Et puis, bonne semaine à vous, les gars. Hein.